des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve David Gaillardon.
On pensait le monde de l'art en berne à cause de la crise financière qui s'est abattue sur l'Occident, mais voilà que les ventes aux enchères qui ont eu lieu ces derniers mois atteignent, pour la plupart, en tout cas, des montants inédits. Il y a eu les records atteints à Londres à la fin de l'année dernière par des artistes contemporains tels que Damien Hirst ou Jeff Koons, et, il y a quelques semaines, le succès de la vente Berger-Saint-Laurent au Grand Palais. Aussi chargé que soit l'horizon, il n'exclut pas, semble-t-il, de très belles embellies. Le récent rapport Art Prize confirmait que Londres avait détrôné New York en matière de conduite du marché international de l'art, Paris devant toujours se contenter du troisième rang. Dans ce monde qui tient du sérail, dans lequel tout le monde se connaît, il y a un commissaire-priseur français qui, depuis quelques années, fait beaucoup parler de lui, tant par la magie de ses ventes que par les records d'enchères qu'il pulvérise avec une régularité de métronome. Avec nous aujourd'hui, Philippe Rouillac, commissaire-priseur à Paris et à Vendôme, le créateur des fameuses ventes de Cheverny, rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs et les collectionneurs, tant français qu'étrangers. Des amateurs qui ont pris l'habitude de se rendre au château de Cheverny chaque année pour le deuxième week-end de juin. Philippe Rouillac, bonjour.
Bonjour.
On a coutume en France de dire que tout se passe à Paris et qu'hors de là, il n'est point de salut. Vous êtes précisément l'incarnation du contraire. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le choix, voici plus de 25 ans, je crois qu'on va célébrer les 26 ans d'ailleurs cette année de votre installation à Vendôme, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le choix de reprendre ce que vous qualifiez vous-même de plus petite charge de commissaire-priseur de France à l'époque?
Oserais-je dire ici que « small is beautiful ». Et puis, regardez combien de secrétaires perpétuels étaient comme moi originaires de province et ont puisé dans cette terre l'inspiration de leur œuvre, de leur travail et de leur renommée. Je pense qu'en France, lorsqu'on fait bien son travail, où que l'on soit, mais qu'on travaille dans la fidélité, dans la régularité, eh bien, les lauriers dorés de province valent bien ceux de Paris. Un petit chez-soi vaut bien un grand chez les autres. Et est-il si grand? Moi, je préfère être de taille humaine, préférer Fauchon au supermarché, avoir un service de proximité et jouer cette carte de province, d'autant que nous sommes à 40 minutes. Je vous ai rejoint en 40 minutes en prenant le TGV, ayant moi-même des bureaux à Paris, à Montparnasse. Bon, pourquoi ce métier? Je ne suis pas un produit du sérail, ni du système. Produit du sérail, mes parents, tous les deux, mes frères, nous sommes quatre garçons, sont ingénieurs, donc vocation scientifique. Mais je suis tombé tout petit dedans dans cette fascination qu'avaient les objets pour moi. Et puis, après des études de droit, Sciences Po, Langso, j'ai eu la chance de rencontrer André Malraux. Et pendant un an, sa dernière année, 75-76, il m'a façonné comme un potier façonne l'argile et surtout il a allumé un brasier pour me faire comprendre que tous ces objets étaient en relation et qu'il y avait des interactions réciproques entre ces objets. Et ce métier de commissaire-priseur, je crois que c'est le seul qui permet de mettre en relation des personnes et des objets. Et toute nature d'objet, toute époque d'objet et aussi toute catégorie de personnes. Donc on ne peut pas faire l'un sans aimer l'autre, sans écouter l'autre. Et par un jeu de miroir, ce métier de commissaire-priseur, eh bien, nous permet de grandir et de faire grandir autour de soi. Alors, je crois que j'ai fait le bon choix.
Nous en sommes tous convaincus. Ce choix de la province, vous venez de l'expliquer. Et pourquoi Vendôme plus particulièrement alors?
Vendôme parce que d'abord, c'est un mot grave et sonore. Il y a un accent circonflexe. Je suis très sensible. Puis vous savez, lorsque vous êtes un étranger, même à Paris, vous dites commissaire-priseur à Vendôme, c'est peut-être mieux que dire que je suis commissaire-priseur à Romorantin. On s'imagine tout de suite que vous êtes dans des lambris en face du ministère de la Justice, au-dessus chez Boucheron et Forncliffe. Pourquoi pas? Non, Ce mot est porté par Jean de France, duc de Vendôme. Il y a beaucoup d'histoires dans cette vallée de la Loire.
C'est le cœur de l'histoire de France. Et je crois, pardon de vous interrompre, vous avez une expression, et en fait je l'attendais, c'est pour ça que je vous interromps. Vous parlez de régions extrêmement giboyeuses.
Giboyeuses d'histoire, en grand H, et puis histoire, petite H et des S. Nos rois ont séjourné sur le bord de ce fleuve, la vallée des rois, pendant 2 siècles. Et après, la bourgeoisie, jusqu'en 1930, s'y est plus. Eh bien, tout naturellement, des traces dans l'architecture, et pour nous, commissaires-priseurs, quelques reliefs encore dans ces châteaux, dans ces manoirs, dans ces grandes maisons, et surtout qui vivent en osmose avec ces familles et ces propriétaires. Là a battu le cœur de la France, là se trouve peut-être le grenier de la France.
Alors inévitablement, lorsqu'on manipule, comme vous êtes amené à le faire, autant de beaux objets, d'objets qui, à la différence de nous, ont plusieurs vies, on croise des destins, soit des destins accomplis, parfois des destins tragiques. Vous avez forcément pénétré des histoires de famille qui sont soit des histoires de grandes familles et de grandes histoires, soit aussi des choses peut-être plus difficiles.
On appelle son médecin quand on n'est pas mourant, mais quand on a besoin d'être soigné. On appelle son commissaire-priseur, et je me considère comme un commissaire-priseur de famille, quand on a besoin de recueillir des avis, des conseils, afin de prendre des décisions. Quelle que soit l'importance de l'objet, j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas facile de vendre. Ce n'est pas facile de donner, et que la nature humaine, elle est plutôt de conserver et d'acquérir. Donc un commissaire-priseur doit être à l'écoute des besoins, des références monétaires, mais aussi tout du vécu de cet objet et du tout le pathos qui entoure ces objets. Alors ce matin, grande satisfaction, on nous a confié une montre, c'est la seconde qui est connue, qui était offerte par l'impératrice Marie-Louise. Conservé dans la famille depuis 1813-2009. Vous voyez, ça a passé les guerres, les conflits familiaux, les rapines, les vols. Elle avait été offerte par l'impératrice Marie-Louise à sa lingère, Madame Minette. Lingère, qu'on fournit le trousseau du roi de Rome. On n'est pas n'importe quelle lingère. Elle avait une fille charmante qui avait une très belle voix. Et Madame Minette, approchant l'impératrice pour ses atours, lui avait confié que sa fille chantait et était accompagnée d'un piano autrichien. Marie-Louise a dit « Je rêve d'avoir un piano autrichien, mais Napoléon me le refuse. Blocus continental, importation. » Bien. Alors l'impératrice Marie-Louise a invité aux Tuileries la fille de Madame Minette en disant « Vous viendrez accompagner de votre piano et j'écouterai vos vocalises. » Elle est tellement contente du chant de Mademoiselle Minette qu'elle lui a offert sa montre. Et elle a gardé le piano aussi.
C'est presque un livret d'opérette, cette histoire.
Donc, vous voyez, cette petite histoire d'une montre qui rattache à une grande histoire et dans les soubresauts des histoires familiales, ça, c'est extrêmement attachant. Mais il est vrai que des fois, il y a un poids psychologique, il y a des lourdeurs qui sont inhérentes à notre métier, comme pour un notaire, comme pour un avocat, comme pour un médecin, et des ventes qui ne sont que la partie visible de l'iceberg, aussi bien des objets que des problèmes de famille, ne nous laissent pas indifférents. J'étais très marqué par les ventes de Barbara.
Barbara, la chanteuse, hein ?
Une vente à Vendôme où nous avons vendu Barbara, la femme, et puis une vente à Cheverny où nous avions vendu Barbara, la chanteuse. Et ce n'est pas rien qu'on vous confie, sans l'avoir connue, les clés de sa maison. Et son frère, psychologue, psychiatre, a dit « Voilà, je vous donne les clés, vous discernerez et vous en ferez ce que vous voudrez. » J'ai dit « Monsieur, j'ai des comptes à vous rendre. » Non, ça ne se passe pas sur ce domaine-là. Vous apprendrez à connaître ma sœur, donc vous devriez me découvrir aussi à travers ma sœur. Nous qui n'avions pas un disque de Barbara, qui n'avions jamais assisté à un concert de Barbara, j'étais extrêmement surpris de son choix. Vous savez, c'est un petit peu comme le général de Gaulle, quand il a choisi Pisani, ministre de l'Agriculture. Pisani me dit « Mon général, je n'y connais rien. » Le général a dit « Tant mieux !» Bon, eh bien, Rouillac n'y connaissait rien à Barbara. Et il a fallu comprendre pourquoi Jean Cerf, son frère, comme sa sœur, Rachel, m'avait appelé. Et nous avons travaillé tout un été. C'était long, douloureux de savoir quel rapport il y avait entre Barbara, son frère et sa sœur, l'inceste que le frère n'a pas voulu aborder du vivant de Barbara, et qui là, me donnant les clés de la maison, il y avait un aspect un peu purification, ou du moins un aspect de décharge. Et là, le commissaire-priseur est en première ligne. Nous devons autant respecter ses consignes que ne pas trahir l'image que Barbara avait dans son public. Et après, je me suis rendu compte que le public de Barbara, le public des ventes aux enchères, était à son image. Des relations contrastées, difficiles, extrêmement passionnées.
Vous aviez reçu, je crois, beaucoup de courriers.
Les choses très attachantes de Barbara, il y avait du courrier, il y avait son mobilier, son piano, dans lequel elle souhaitait être enterrée. Et c'est à la lecture de sa correspondance, elle gardait rien, qu'il a fallu discerner. Et dire, par exemple, je ne parlerai pas des lettres d'amour de Mitterrand à Barbara. Je n'évoquerai pas l'attachement de Barbara pour la cause israélienne, etc., etc. Il y avait déjà suffisamment de choses sur la carrière de Barbara qui était extrêmement riche. Mais les secrets de famille, ils affleurent dans les ventes et il faut des fois ne pas les dévoiler et en même temps ne pas être dupe de ce que la famille peut nous demander. Je crois que c'est respecter l'objet, d'une manière générale, une partition de musique, comme son public, les fans de Barbara. Alors ça, c'est tout un monde. Ce sont des serpents qui perdent souvent leur queue et qui n'aiment pas s'exposer et qui crient au parjure, qui crient à la seconde mort de Barbara, mais qui sont les premiers avant à laisser des ordres très importants pour avoir quand même un souvenir de Barbara. C'est aussi l'aspect psychologique du public, en fin de compte très attachant, mais difficile parce que nous, tout se joue en quelques secondes. Et il faut savoir, je crois, garder son calme, maîtriser tout ça et permettre à chacun parmi le public de prétendre à acheter quelque chose, quels que soient aussi ses moyens financiers quand il s'agit d'une vente assez spéciale comme celle de Barbara.
Alors, abordons un autre exemple, une autre vente, celle d'un tableau extraordinaire que vous aviez retrouvé et qui a eu d'ailleurs un destin fabuleux à l'issue de vente, un tableau de Cranach, je crois.
Affaire difficile, quand on vous apporte un tableau dans un papier de journal, dans un sac de la FNAC, on vous dépose ça sur votre bureau. Un monsieur, un physique très Jacques Faisan, vous voyez, Bellus, vous nous en donnez 50 000 francs, vous vous rendez compte, c'est énorme, ça fait 5 millions de centimes. C'est bizarre. On regarde le tableau, on dit, comment l'avez-vous eu, c'est la première chose. Grand-père avait acheté ça sur les quais de la Seine, entre les deux guerres, nous l'avons accroché dans une chambre là-haut, ça présente cette femme nue, c'est un peu porno. Mais 50 000 francs qu'on nous en propose, on ne sait pas. C'est vrai que c'était beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. C'est un prix qui ne voulait rien dire. Qui ne voulait rien dire pour une copie et qui ne voulait rien dire pour un tableau important. Il nous a fallu 2 ans de recherche. 2 ans. Parce que ces tableaux-là, j'avais tout de suite remarqué, le commissaire-priseur doit avoir un œil de lynx, qu'il avait un petit dragon ailé. Et entre les pattes du dragon, il y avait un 15 et de l'autre côté un 32. Et ça, c'était la marque de Cranach. Alors tout de suite, on s'est rapproché du professeur Berlin de Berne, 88 ans, qui avait le catalogue raisonné de Cranach, qui a consacré sa vie. Et quand nous avons pu l'avoir au téléphone après moult digressions, « Monsieur, vous me faites perdre mon temps, je suis le spécialiste des Cranach, je les connais tous, tous les Cranach sont chez Rothschild, dans les grands musées, tous les Cranach ont coûté déjà très cher à l'origine, vous êtes encore un plaisantin. » Le plaisantin s'est accroché, rappelé, demandé s'il voulait bien me recevoir 10 minutes, il m'a dit non, 5 minutes, le temps que je le prenne, que je le retende et que je prenne mes honoraires. C'était 5000 francs suisses, ce n'est pas rien. J'ai pris le risque et nous sommes restés 2 heures. Les 5 minutes ont été transformées en 2 heures. Il venait de découvrir, comme il dit, le dernier Cranach en main privée inconnu. Tableau sublime. Comment a-t-il atterri là? On ne sait pas. Regardez bien chez vous, appelez-moi, on ne sait jamais. Ça veut dire qu'il y a encore des trésors en France, il y a encore des choses qu'on sous-estime, qu'on ne regarde pas, ou qu'on n'attribue pas. Et c'était une très belle histoire qui s'est terminée par un accrochage sublime, étant donné que maintenant il est propriété de la reine d'Angleterre. C'est le quatrième Cranach d'Elisabeth II. Et bien ça s'est passé par la magie du petit commissaire-priseur de Vendôme qui avait vu. Retrouver ce Cranach, cru en ce Cranach, vendu ce Cranach, même si ça a provoqué une crise cardiaque au vendeur. Il en a survécu, bien heureusement.
Très belle histoire qu'il fallait absolument nous raconter. Alors, Philippe Rouillac, nous parlions au début de cette émission de Cheverny. Vous êtes connu aujourd'hui aussi pour être cet animateur des ventes de prestige de Cheverny. Il s'y passe quelque chose de remarquable par la qualité de ce qui est dispersé. Je dirais que le spectacle est à la fois dans la beauté, l'histoire des objets dispersés, mais aussi peut-être dans l'assistance. Comment est né ce projet de Cheverny ?
Il était servi par des circonstances extraordinaires et par des familles qui ont misé sur ce cheval. Soude Brant, américaine, qui avait été attachée de presse de Frank Sinatra, belle-sœur du président Giscard d'Estaing, avec les Caramans, duc et pair de l'Empire, et les Vibray, propriétaires de Cheverny depuis près de 3 siècles, m'ont fait confiance. J'avais vendu en 1986 pour la restauration de la Statue de la Liberté au château de Chambord. Et Soude Brant était venu me voir en me disant « C'est très bien ça, jeune homme, mais pourquoi pas vendre pour les propriétaires privés ?»« Ça ne tienne qu'à vous, madame. » Elle m'a présenté Arnaud de Sigala, propriétaire de Cheverny. Il a dit « Écoute, ce jeune homme, je ne le connais pas, je te fais confiance, on verra bien. » Eh bien, ça dure. Ça dure depuis 20 ans. Parce que je pense que nos intérêts sont liés, croisés, et que le plus beau des bijoux est encore un must s'il vient de la place Vendôme. Et le plus beau des tableaux, le plus beau des meubles, devient un must s'il est présenté dans un écrin incomparable. Je crois que Cheverny, cette plus belle demeure privée de France, ouverte au public, la première entre les deux guerres, a toujours été à l'affût d'une certaine modernité et pour nous un cadre incomparable de majesté, de grandeur. Nos amis étrangers, nos amis français nous le disent. « Oh, on l'a payé un peu cher, mais ça vient de Cheverny. »
Philippe, avant de parler des records qui ont été atteints, je n'ose pas dire pulvérisés à Cheverny, marquons une pause si vous le voulez bien.
Dans les paniers d'eau, c'est la salle des ventes. Une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était la figée superbe et déchirante, les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus comme sont nus parfois les arbres en novembre.
Nous retrouvons Philippe Rouillac, commissaire-priseur à Paris et Vendôme. Et avec lui, nous reparlons de grandes ventes de prestige de Cheverny qu'il organise chaque année et des records qui ont été atteints, je crois, ces dernières années, de manière consécutive d'ailleurs.
Oui, plusieurs dizaines de millions de francs, plusieurs millions d'euros. Ce qui est important, c'est le service qui était rendu en amont à ces familles qui étaient propriétaires de ces objets et puis la destination de ces objets, de ces tableaux. Il n'y a pas plus de satisfaction pour un commissaire-priseur de vendre un tableau depuis 2 siècles dans la même famille qui est présenté par le propriétaire, le marquis de Beaumont, tableau qui ornait le grand salon et qui est présenté par le Louvre, par le conservateur général en personne à Cheverny. Et comme a dit Pierre de Beaumont, eh bien, quand j'irai maintenant au Louvre montrer le tableau à mes petits-enfants, je leur dirai « Bah, voyons la famille, on n'avait pas trop mauvais goût ». Et ça se passe à Cheverny, c'est merveilleux. Et le public est extrêmement demandeur. Et je pense que là, il y a certaines choses qui se passent avec des prix qui se passent comme ils ne s'en passent nulle part en reste dans toute la province et que nous n'avons pas à rougir. Nous n'avons pas à rougir de Paris pour le marché de l'art et pour la satisfaction de ces familles qui nous honorent de leur confiance. Alors, ça va des objets les plus divers. Ça va de fer à la soie et aux chambres. Le fer, c'est l'escalier de la Tour Eiffel. Nous avons vendu le bicentenaire de la Tour Eiffel. C'était ma première vente en 1989. L'acheteur a été américain. Il a fait le centre du monde autour de ceci. Il nous confie cette année à une Bugatti à vendre. Donc, vous voyez, les relations acheteurs-vendeurs, les relations se sont nouées et elles s'entretiennent 20 ans après. Elles peuvent être de soie aussi. Je pense au foulard que Louis XVI a dénoué en montant le 21 janvier 1793 sur la place... En montant à l'échafaud, ils peuvent être de chanvre, comme toutes ces toiles, la toile de Washington, qui avait été offerte par Washington à l'envoyé personnel, chef du corps expéditionnaire français, Rochambeau, et qui maintenant, ce tableau est accroché à la Maison Blanche. Et ça s'est passé par Cheverny, pour le plus grand bonheur de tous. C'est une fête d'acheter à Cheverny, et c'est une demi-fête de vendre aussi à Cheverny. Même si c'est toujours douloureux de se séparer de ces objets. Mais moi, j'essaye de leur trouver un maître aussi accueillant, aussi bien élevé, le propriétaire, détenteur à titre précaire.
Alors, Philippe Rouillac, en dispersant ainsi d'un coup de marteau ce que des familles ont parfois mis des siècles à accumuler, ou ce qu'un collectionneur a mis toute une vie à réunir, est-ce qu'on n'est pas parfois saisi d'un sentiment de mélancolie et habité en quelque sorte par le vanitas, vanitatum et omnia vanitas des écritures ?
Oui, mais si ça peut permettre de faire autre chose, si ça peut permettre de désamorcer une bombe, un différend familial, un conflit générationnel. Et puis en plus, si ça peut permettre de passer l'essentiel, c'est-à-dire la propriété, de la mettre hors d'eau. Mes enchères de Cheverny permettent de refaire des hectares de toiture et permettent de transmettre ce patrimoine auquel je suis extrêmement attaché dans le Val-de-Loire et de garder la maison, garder ce château et qu'il y ait des compensations pour ceux qui n'auront pas cette charge. Et faire ça du vivant des parents. Quelle plus grande satisfaction d'avoir encore quelques noisettes. À défaut de noisettes, ces maisons sont extrêmement lourdes et l'avenir est assez sombre. Alors que là, il est vrai, ô saison, ô château, hein, comme nous l'a écrit le poète, mais on peut toujours rebâtir un avenir sans renier son passé si on a su arbitrer son présent. Je crois que c'est ça. Aussi bien dans une stratégie, je dirais, patrimoniale, financière, et même simplement dans une transmission de valeurs, d'éthique. Et ça, commissaire-priseur de famille, moi, j'essaye absolument de le faire comprendre aux pièces rapportées, ou à ceux qui vont plus vite, à ceux qui ont des carrières plus brillantes, et que ces vieilles murailles, elles méritent autant de respect et elles sont autant d'outils de travail pour d'investissement. Nous avons vu tout le contenu d'un château de la Sarthe qui n'avait pas bougé depuis 3 siècles. Extraordinaire, ça a permis de... rénover une orangerie, que cette orangerie soit louée pour des mariages, que le château est à flot, les enfants un outil de travail, que demander de plus ?
Alors il faut vous rendre aussi cette grâce que vous êtes un des rares commissaires-priseurs qui veille à éviter autant que faire se peut la dispersion des archives du patrimoine, je pense notamment à ce qui s'était passé à Azay-le-Rideau.
Oui, c'était le chaînon manquant des archives nationales quand la construction d'Azay-le-Rideau, qui vous savez qui est le premier bâti inspiré de la Renaissance italienne. Antérieure à Chambord, avec des artistes qui venaient de la péninsule italienne et qui est conservée par le marquis de Biancourt pendant 2 siècles et demi. Et nous avons trouvé ce chartrier, et pour sensibiliser ces élus, le président du Conseil général, nous avions étalé une des chartes qui faisait 4,50 m de long. Il m'a dit 4,50 m, ça fait combien d'argent au centimètre ? Non, il n'y a pas que ça. Je pense que quand l'Académie, il y a quelque temps, a acheté les mémoires d'un prix de Rome...
La bibliothèque de l'Institut.
Oui, la bibliothèque de l'Institut, elle a fait le bon choix. Monsieur Damien représentait l'Institut et a permis ainsi à compléter des collections. Ce patrimoine, il vit. Ce patrimoine, il est conservé maintenant à la bibliothèque de l'Institut, comme il est conservé aux archives nationales. Eh bien, il est au moins autant aimé qu'il n'était dans un chartrier dont on ne se connaissait pas trop son existence. Et puis surtout, il est préservé pour les générations futures car il est entretenu. Il connaît un superbe chartrier dans un château de la Loire. Et bien, d'année en année, les souris rongent. Peut-être qu'à un moment, il va être temps de soit déposer aux archives, soit nous le confier pour le vendre. Mais les outrages du temps sont très rapides et cette préservation du patrimoine, elle passe des fois par... Je ne sais pas lire ces écritures anciennes, je ne saurais pas les exploiter, je ne peux pas les manipuler. Eh bien, je souhaite qu'elles reviennent dans les meilleures mains. Et ça, comme commissaire-priseur, nous faisons tout notre possible pour qu'il en soit ainsi.
Philippe Rouillac, les commissaires-priseurs français étaient très inquiets il y a quelques années de la suppression annoncée de leur monopole. Cette suppression a eu lieu maintenant. Et vous qui vous qualifiez vous-même de petit poussé, comparé à ces majors anglo-saxons, vous donnez l'impression, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de vos confrères, d'avoir bien tiré votre épingle du jeu de cette suppression du monopole et on s'en réjouit.
Oui, ce monopole était hérité de l'Ancien Régime. La vénalité des charges avec un numerus clausus. Je pense que mondialisation des échanges, ouverture à l'Europe, il n'avait plus de raison d'être. Et je me réjouis de savoir qu'il peut y avoir un deuxième commissaire-priseur à Vendôme. Il y a de la place. Donc, nous avons beaucoup plus de liberté à agir depuis 2002. La concurrence est beaucoup plus vive. Mais à partir du moment où elle est loyale, nous n'avons pas à en souffrir. Vous savez, nous étions dans une piscine. Alors certains avaient des bouées, certains avaient encore des maîtres nageurs à 50 ans, d'autres tenaient leur maman par la main. Moi, je crôle. Bon, on crôle encore plus vite maintenant qu'on n'a plus de monopole. Alors on dit, on éclabousse les autres. Oh, quand on est dans l'eau, on est toujours éclaboussé.
Alors Philippe Rouillac, vous avez la réputation d'être un bourreau de travail. Vous préparez actuellement les ventes de Chevenet dont on parlait, d'être un bourreau de travail, mais aussi un perfectionniste. Et en même temps, je crois savoir que vous avez réussi, et on s'en réjouit, à garder du temps pour votre famille, mais aussi pour cultiver la vigne au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes aussi, je crois, le président d'une société savante fort active. Comment est-ce que vous faites pour concilier tout ça?
J'ai d'abord et avant tout une femme remarquable. Non seulement parce qu'elle est fille, sœur, belle-sœur et femme de commissaire-priseur, c'est la seule en France qui peut le dire, elle sera bientôt mère, notre fils aîné s'apprête à nous rejoindre avec une grande joie, Aymeric, avec des idées déjà très nouvelles. Donc, les choses vont plus vite sur le coin de l'oreiller et il y a une grande complicité et les informations que nous avons, eh bien, elles sont très prenantes et elles restent dans le domaine de la discrétion. Mais c'est vrai que j'ai l'art de cultiver cette famille, l'art de cultiver les grands-pères, ayant un petit-fils Gabriel depuis un an, qui permet de prendre peut-être un peu de recul dans tout ça. Problèmes médicaux importants, touché d'un cancer, j'en suis sorti, mais tout ça, ça fait bouger un bonhomme, ça permet de regarder un petit peu où est l'essentiel, ou qu'est-ce que nous avons encore à faire. Et puis vous, c'est vrai, vous disiez, je suis très attaché à cette vieille dame du Vendôme, qui est la société archéologique, scientifique et littéraire. Ah, c'est une société savante, créée en 1862, reconnue d'utilité publique. Et je suis très fier parce que cette année, nous avons dépassé nos 500 membres. 500 membres, vous savez, c'est beaucoup. Je suis aussi administrateur de la Société archéologique de Touraine, créée en 1842 aux dimensions de la province de Tours. Nous sommes à 350 membres. C'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de joie. Ce sont des conférences, ce sont des visites, un colloque Rochambeau, un colloque Babeuf. L'histoire est plurielle à Vendôme. Et ça permet de partager ces connaissances et à partir de ces objets, les relier à la grande histoire. Et que lorsque nous sommes en Vendômois, il y a matière. Un bulletin qui est déposé à la bibliothèque de l'Institut, de 100 pages, qui a le patronage du ministère de la Culture, ce qui est très rare pour une... Vendôme, c'est 15 000 habitants, hein. C'est une sous-préfecture très balsacienne. Mais là, dans cette espèce de société d'émulation, nous sommes nombreux à nous retrouver pour le plus culturel du Vendômois. Et je crois que cet apport, il est partagé des deux côtés. Cette vieille dame a beaucoup de faveurs et de saveurs.
On va paraphraser Voltaire. Vous ne cultivez pas votre jardin, mais vous cultivez la vigne. Vous ne l'avez pas dit. Parlez-nous un peu des coteaux du Vendômois.
Ah, les coteaux du Vendômois, nous avons un vin qui est extraordinaire. C'est un Pinot de Nice. C'est un vin qui était servi à la table d'Henri IV. Henri IV, ancien duc de Vendôme,
n'est pas rien.
Sur le trône en 1589, après avoir livré sa ville au sac, il avait planté des vignes. Pinot de Nice, c'est une couleur extraordinaire qui est œil de gardon. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un rouge, ce n'est surtout pas un rosé. C'est un vin frais, sans aucune prétention, sur un petit terroir. Nous le vendons très bien à l'exportation, les amis japonais, et il est très apprécié en France. La production est vendue avant d'être écoulée. C'est un vin plaisir, c'est un vin copain, c'est un vin que l'on ouvre facilement, qui ne monte pas à la tête et qui est le produit d'un tiroir très atypique.
Marquons une petite pause, si vous voulez bien, Philippe, et nous nous retrouvons tout de suite à la suite. « Nous retrouvons Philippe Rouillac, commissaire-priseur à Vendôme et à Paris. Et avec lui, nous abordons cette fois le sujet de la crise, qui est la crise financière, la crise économique qui a frappé l'Occident, qui a forcément eu des retombées sur le marché de l'art, même si quelques grandes ventes spectaculaires ces derniers temps ont été de très belles réussites. Comment est-ce que vous analysez, vous, actuellement, le marché de l'art, la santé du marché de l'art ?
Le marché est en dents de scie, mais je crois qu'il l'a toujours été. Que des modes chassent le mobilier classique du 18e et qu'une clientèle nouvelle arrive tous les 3 ans, tous les 5 ans sur le marché et que nous sommes incapables d'anticiper, exactement d'ailleurs comme les hommes politiques ou les financiers ont été incapables de prévoir cette crise économique. Mais le marché de l'art, c'est comme la mer. Il y a des hautes marées, il y a des basses marées. Il y a des pleines marées, une pleine lune, il faut observer ça, mais il faut rester extrêmement confiant. D'une part, parce que tous les objets, les tableaux de qualité feront toujours un prix. Et que d'autre part, il y aura toujours une clientèle qui succédera à celle qui vient de partir. Il y a 20 ans, on parlait des Japonais. Nous vendions très bien des vases galets à des prix fous. C'est fini! Il y a 10 ans, nous vendions très bien de l'art islamique aux pays émergents arabes à la suite de la dynastie Pahlavi. C'est fini ! Il y a 5 ans, nous vendions encore très bien aux Américains. La parité euro-dollar, c'est fini ! Aujourd'hui, nous vendons très bien aux Russes. J'ai fait une vente à Chambord, au château de Chambord. Premier commissaire-priseur depuis la Révolution à vendre au château de Chambord. J'aime les grandes murailles. Elles nous portent. Et les acquéreurs ici sont extrêmement sensibles. Eh bien, nous avons débarqué des moujiks. Gros, gras, le teint frais, la bouche vermeille, mais très argentés. Ils ont fait flamber ces peintures russes. Demain, qu'est-ce que ce sera ? On nous parle d'Indiens. On nous parle de Coréens. On saura s'adapter. On saura trouver les objets qui peuvent correspondre à leurs demandes. Pourquoi les Russes s'y intéressent ? Hormis le fait de mafiosi, ils veulent, là ce n'était pas du tout le cas, c'était des représentants du ministère de la Culture, qui réhabilitent des peintres juifs exilés et tsaristes, qui s'étaient réfugiés en France. La France a toujours été un terre d'accueil et un creuset dans l'expression artistique, ne serait-ce que par ses apports successifs étrangers. Et maintenant, ils veulent leur réhabiliter. C'était des jeunes qui étaient partis 18, 20 ans et maintenant qu'ils achètent à grand prix pour orner leur musée. Tant mieux. Tant mieux, non pas simplement pour le vendeur, mais tant mieux pour le progrès général, tant mieux pour la culture. Il eût été peut-être préférable de s'intéresser à eux de leur vivant, mais je crois que les Russes n'ont pas le seul monopole de ne pas faire attention à une certaine création contemporaine. Donc il faut rester extrêmement confiant, extrêmement confiant. Il est vrai que la commode Louis XV, le cartel en bois sculpté et doré qui a teinté toute votre jeunesse, c'est terminé. Vous n'avez plus de montre à oignons, vous avez une quartz, vous avez votre téléphone qui vous donne toutes les fonctions. Bon, bien tous ces objets du 18e qui sont un art de vivre à la française. C'est vrai qu'ils intéressent moins les jeunes. Regardez autour de vous. Une commode Louis XVI ? Non, merci. Un voyage au Baléares ? Oui, bien sûr.
Philippe Rouillac, merci infiniment de nous avoir fait partager votre merveilleux métier. Merci aussi pour toutes ces anecdotes. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on termine par un clin d'œil à un instrument dont vous ne vous séparez pas souvent, votre marteau, parce que je crois que son histoire est particulière.
Il a l'histoire surtout, hormis des enchères qu'il a martelées et qu'il martellera, il a l'histoire de... Ah, comment dire ? C'est plus qu'un artisan.
Quelqu'un que nous avons reçu ici à Canal.
Gucci, le magicien de l'or, celui que l'on appelle de son vivant comme Michel-Ange par son seul prénom. Il a façonné combien d'épées d'académiciens ? La première fut celle d'Hélène Carrère d'Ancos, de toutes les académies. Il a façonné 2 marteaux, le mien et celui du Saint-Père. Je dis ça dans l'ordre chronologique. Celui du Saint-Père, pour Jean-Paul II, était pour l'ouverture de l'année sainte. Il est en bois de Cayac et en argent. Il a permis à Jean-Paul II de marteler la porte d'entrée de la basilique pour l'ouverture de l'année sainte. Le mien est dans des mains beaucoup plus profanes, viles, mercantiles, mais il est tout aussi beau parce qu'il a 4 matières et ces 4 matières symbolisent bien, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui me l'a offert. Ces 4 matières symbolisent bien notre métier de commissaire-priseur. D'abord, il y a le bois de rose. Vous savez, c'est un bois extrêmement précieux, exotique, dont les plus beaux meubles du 18e sont façonnés. Ensuite, il y a de l'argent. Et les pièces d'argenterie du 18e siècle en France, il n'y a rien de plus beau. Une aiguière de Thomas Germain, Donc, il fallait qu'il ait de l'argent. Il a de l'ivoire. Ça, c'est l'aspect traditionnel du marteau de commissaire-priseur qui est en ivoire, en phalène de baleine, parce qu'il permet un coup mat et extrêmement franc. Et puis, ce qu'il a rajouté avec une grande délicatesse, et là, on retrouve tout aspect là, l'être délicieux qu'est Guji, il l'a façonné avec du lapis-lazuli. C'est une pierre merveilleuse. C'est une pierre qui vient de l'Antiquité, qui déjà était les yeux de Néfertiti sont en lapis-lazuli. Depuis l'Égypte, on vénère cette pierre broyée. Elle permet de faire des fresques, peintures murales, de teinter les vitraux. Et c'est une pierre qui est bleue, marbrée un petit peu avec des filaments d'or et qui a toute une poésie. Théophile Gautier, dans son poème des amants, des camées, parle du lapis. L'évocation est extraordinaire d'avoir ce marteau en main, de ces matières, eh bien pour, à ma manière, pour marteler à la suite de Guji.
Philippe Rouillac, merci de cet entretien. Merci d'avoir joué le jeu de ce portrait. Je vous souhaite de recevoir de très nombreux amateurs d'art à Cheverny. Je crois que le rendez-vous sera le 7 juin.
7 juin, nous vous y accueillons. Cheverny est très vaste. Vous pouvez y arriver en hélicoptère, à pied ou à cheval.
À très bientôt, au revoir.